ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette apérophonie. Alors aujourd'hui, nous allons écouter une émission qui a été réalisée par les élèves du CLEPT dans le cadre d'un atelier radio animé par Isa Stragliati. Alors le CLEPT, c'est le collège lycée élitaire pour tous. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 15 à 23 ans ayant décroché du système scolaire et est volontaire pour reprendre une scolarité. Donc l'objectif prioritaire est de permettre aux jeunes de se réconcilier avec des savoirs, avec l'institution scolaire, mais aussi avec eux-mêmes, en rendant accessible à tous une culture exigeante et en valorisant le collectif et la collégialité. Alors le 8 mars dernier, nous avions découvert la première émission autour des inégalités de genre dans le travail et on va vous laisser découvrir aujourd'hui ce second produit clepté.
Les produits cleptés.
Une émission de l'atelier radio du Clept. Bonjour et bienvenue dans Les Produits Cleptés, une émission de l'atelier Radio du Clept. Aujourd'hui, cette émission est présentée et commentée par Héloïse, Mamadou, Ibrahima et Mathieu, et à la régie, Tommy. Qu'elle soit locale ou internationale, la monnaie est la base de notre société, mais la connaissons-nous vraiment? Aujourd'hui, nous allons nous interroger et nous intéresser à deux types de monnaie alternatives, la crypto-monnaie et la monnaie locale.
Dans l'émission d'aujourd'hui, il y aura un micro-trottoir, une interview et pour finir, un petit jeu. Paf, micro-trottoir.
Est-ce que vous savez ce que c'est une crypto-monnaie ?
Crypto-monnaie, non, je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas ? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler ?
Non, c'est la première fois.
Oui, pas dans le détail, mais oui.
C'est compliqué à expliquer.
C'est de la monnaie pour l'avenir, non ?
La crypto-monnaie, c'est une monnaie un peu virtuelle, un peu fictive, qu'on va prendre, qu'on va acheter. Pour un peu faire des bourses, tout ça.
Je crois que c'est de la monnaie que t'achètes et qui, dont le taux varie, mais je suis pas sûre. J'en ai déjà entendu vaguement parler, mais c'est
par
tout.
Par qui vous en avez entendu parler ?
Par des amis qui ont investi dedans.
Et donc, personnellement, vous en avez jamais investi dedans ?
Non. Je me suis vite fait intéressée, mais pas très longtemps.
Pouvez-vous en citer quelques-unes ?
Le Bitcoin. Et après, bah, je ne connais pas beaucoup, beaucoup.
C'est pas les crypto-monnaies, les bitcoins, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, hein, les bitcoins. Ouais.
Vous connaissez que ça ou pouvez-vous nous en citer plus ?
Non.
L'Ethereum, le Shiba.
Si on vous dit Karn, ça vous dit quelque chose ?
Non, pas du tout.
K-E-R-N ?
A-C-A-I-R-N.
Non, je ne connais pas, non.
Non.
En gros, le Karn, c'est la monnaie globale de Grenoble.
Ok, tu savais toi ?
C'est toi qui habites ici.
Parce qu'elle habite pas ici, mais moi je savais pas.
J'ai appris ça tout à l'heure moi-même.
Oui. C'est une monnaie. Oui, c'est vrai qu'on peut payer par Cairn dans plusieurs magasins, c'est ça ? Ouais, j'ai dû lire un article là-dessus. Ouais. Et par contre, dans le détail, je sais pas. Enfin, si, je sais pas comment on peut échanger, comme ça peut valoir de l'argent, c'est ça ? Enfin, c'est équivalent à de l'argent.
C'est une monnaie à l'autre, pas la même que celle de maintenant, là. Le Karn, oui. Et elle a la même valeur que l'autre. C'est pas la même, c'est moins.
Ouais. Vous connaissez des gens qui l'ont déjà utilisé ?
Oh, à la Bonne Pioche, le magasin là-bas. Vous voyez où il est ? Oui, là-bas, il y en a.
Là-bas, on peut l'utiliser ?
Oui.
Et vous connaissez des gens qui l'ont utilisé là-bas ?
Mais il y a un vendeur, il s'appelle Cyril. Il est là-bas, il travaille là-bas.
On peut aller le voir de votre part ?
Ben oui.
On constate que les crypto-monnaies et les coins sont peu connus. Si certaines personnes connaissent leur nom, elles ne sont pas capables de les définir. Afin d'en savoir plus, Sur ce sujet, nous avons interviewé Jeanne, une étudiante passionnée d'informatique et de crypto-monnaie.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ?
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans, je suis étudiante, je prépare mon DAEU en SP sciences. Je compte faire des études en physique.
Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux crypto-monnaies ?
Je me suis intéressée il y a très très longtemps, quand je me suis vraiment intéressée à l'informatique un peu plus en profondeur, dans le sens un peu plus technique. C'était à l'époque où je me suis intéressée à Linux, des systèmes d'exploitation divers et variés, et plus dans le sens vie privée, etc. J'ai appris la crypto-monnaie par le Bitcoin, l'Ethereum, etc. C'était plutôt pour moi, une monnaie alternative plutôt pour l'anonymat que vraiment une monnaie pour faire vraiment de la spéculation et vraiment... comme on a le cliché du Bitcoin, etc., pour se faire de l'argent, quoi. Enfin, moi, j'ai pas vraiment ce cliché-là en tête quand j'utilise la crypto.
Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste la crypto-monnaie ?
C'est une information qui est inscrite dans la blockchain. La blockchain est une technologie, en fait, de pair à pair. Donc, elle est décentralisée. La blockchain, en fait, elle permet d'inscrire des données. Par exemple, si je rentre plus techniquement, c'est le hash. Le hash, c'est plutôt une espèce de hachage de données. On a une espèce de 0, 4, D, machin, etc. En fait, c'est une espèce d'identifiant. Par exemple, on peut identifier une transaction par cet identifiant-là. Et en fait, chaque coin, chaque pièce dans une crypto est inscrite dans la blockchain. Et elle est visible par tout le monde. Et c'est pour ça qu'on peut l'échanger, etc.
Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut l'utiliser concrètement ?
On peut l'utiliser de plusieurs manières. On peut l'utiliser, par exemple, pour faire des achats sur Internet. On peut utiliser actuellement du Bitcoin sur des sites totalement légaux. Hein. Moi, je sais que je peux payer mon abonnement de VPN. Ou avant, à l'époque, on pouvait acheter des jeux sur Steam avec du Bitcoin. Maintenant, ça a été enlevé sur Steam parce qu'il y a eu beaucoup de fraude. On peut utiliser la crypto pour beaucoup de choses. Pas que pour acheter, il y a des gens qui spéculent, donc on peut faire de la spéculation comme la bourse. Il y a des technologies annexes à la crypto-monnaie, comme les NFT qu'on a entendu récemment, qui se basent sur la blockchain, sur une technologie de la blockchain, et qui utilisent par exemple la crypto-monnaie pour échanger des biens numériques.
Quelle est la différence avec la monnaie dématérialisée, par exemple payer avec son téléphone ?
Alors, payer avec son téléphone, c'est différent parce que, en fait, payer sur son téléphone, c'est sa carte bleue enregistrée sur son portable. C'est juste que tu utilises la technologie N. J'ai oublié le nom. C'est une espèce de plaque en céramique derrière ton téléphone, tu le poses et en fait, ça fait bip. NFC, voilà, ça me revient. La technologie NFC, mais en fait, c'est pas dématérialisé du tout parce qu'il y a toujours une banque derrière. Il faut avoir une carte bancaire, il faut avoir un compte bancaire et puis c'est des euros que tu dépenses et non pas des crypto-monnaies, etc. Et il faut toujours avoir un compte bancaire. Après, moi, je trouve que c'est moins sécurisé, personnellement, de passer des transactions avec cette technologie-là parce que ça gravite avec des ondes et on sait très bien que si on a une espèce de mouchard, on peut essayer de choper tous les paquets, des paquets de transmission toute connexion sans fil, comme le Wi-Fi, etc. Donc moi, je trouve pas très sécurisé. Un peu comme le sans-contact de la CB. C'est à peu près le même concept. Donc voilà.
Pourrais-tu nous dire les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie ?
Alors, les avantages, je pense, c'est l'anonymat, clairement. Moi, je mise vraiment sur l'anonymat. Aussi, par exemple, dans des pays où la monnaie est très faible, où il y a une inflation très forte, moi, je pense vraiment au Salvador, même si leur plan a échoué au final, parce qu'il y a eu, il y a eu un crash de la crypto dû au NFT récemment. Au changement de protocole pour le minage de Ethereum. Donc ça a fait baisser la crypto et du coup le Salvador, voilà. Mais à une époque, le Salvador a essayé de passer à la crypto-monnaie pour une seule raison, parce que leur monnaie n'était plus viable et ils n'arrivaient plus à contrôler l'inflation de leur propre monnaie. Et ils ont dit, pourquoi pas on se baserait pour les achats du quotidien sur le Bitcoin. Bon, malheureusement, ça n'a pas raison d'eux, parce que c'est toujours de la spéculation ce marché et il n'est pas très bien régulé. Mais il y a un avantage aussi. Et les inconvénients, c'est, comme j'ai dit, c'est beaucoup de spéculation. Et c'est pas très très bien régulé. Après, c'est vraiment les participants à la blockchain qui... S'il y a plus de participants sur la blockchain, ça peut réguler un peu le marché, en tout cas.
Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de la blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, je vais pas rentrer en profondeur parce que c'est très compliqué après. Ça va rentrer dans de la cryptographie, etc. Mais la blockchain, en fait, c'est une technologie décentralisée, pair à pair. C'est le concept de Web 3.0 qu'on entend souvent, là. Métavers, Web 3.0, blockchain, etc. Et il y a aussi, on peut transférer des données par la blockchain, par exemple IPFS, qui est une technologie basée sur la blockchain. En fait, on n'a pas de serveur. C'est... Vous voyez le concept un peu de, à l'époque, on avait BitTorrent. C'est à peu près le même concept, mais c'est pas les mêmes protocoles. La techno, en tout cas, en lui-même, on peut envoyer des données, on peut faire des transactions, on peut certifier, comme les NFT, on peut certifier des biens numériques et même des biens matériels. J'ai vu que Nike, récemment, ont fait des paires enregistrées. Tu pouvais avoir le NFT de ta paire et en même temps avoir un numéro d'identification de ta paire en NFT. Ouais, ça permet aussi de faire une certification de biens numériques et même physiques aussi.
C'était Moni de Pink Floyd. Et tout de suite, on retrouve Jeanne, étudiante en physique, qui partage sa passion des crypto-monnaies avec nous.
Est-ce que la crypto-monnaie va devenir courante et remplacer la monnaie actuelle ?
Moi, je considère que ça, c'est un sujet d'avenir, parce qu'elle fait partie aussi des trois axes d'avenir. On a trois domaines qu'on considère d'avenir, comme l'État investit beaucoup sur ces trois domaines. Il y a la crypto-monnaie. Il y a la nanotechnologie, tout ce qui est et aussi l'intelligence artificielle. Il y a l'informatique quantique. Et je pense que c'est... En fait, ça fait partie du package du Web 3.0, clairement. Et la crypto-monnaie, vu la vitesse qu'on y va, on se rapproche plus à la suppression du cash. On va supprimer la carte bleue et le cash. On va passer au paiement par mobile. Mais je pense qu'après ça, les gens seront plus aptes à utiliser les crypto-monnaies. Et je pense que les crypto-monnaies vont ressortir un essor. Si peut-être que le gouvernement agit un peu dans ce sens-là, à investir un peu dans la crypto-monnaie, tout en, pas en mettant le contrôle, parce que sinon c'est contre la philosophie même de la crypto, de la blockchain en fait. Parce que la blockchain c'est un système démocratique, donc chacun a sa voix, chaque participant dans la blockchain a sa voix, et peut administrer. Mais franchement le gouvernement, je pense, s'il s'investissait bien dans la blockchain, on pourrait avoir une stabilité dans les autres crypto-monnaies, si les autres crypto-monnaies sont indexées à la monnaie gouvernementale. Comme la majorité des crypto-monnaies sont indexées au Bitcoin.
Et enfin, pour revenir sur une monnaie moins informatique, est-ce que tu connais le Kern ?
Oui, je connais. Je sais que j'ai payé une fois le postillon, un numéro de postillon avec le Kern. En tout cas, ouais, elle est un peu y a un peu une inflation là-dessus en ce moment, sur les Kern. Mais bon, je suis pas trop le cours, je suis pas une investisseuse en Kern. Mais le Kern, j'ai entendu, c'est plus une monnaie régionale indépendante. Je connais pas trop le système, la gouvernance du Kern derrière, mais je sais que c'est un moyen de plus fédérer les petits commerces et les commerces indépendants et les petits commerces sur ce système-là pour être moins lésés par exemple. Moi, je sais que en tant que... Je connais des gens qui tenaient des commerces. Et en fait, le problème, c'est que quand tu as un TPE, c'est le moyen où tu mets ta carte bleue, en fait, tu payes un CB, tu payes des frais à la banque à chaque fois que tu as un paiement. Par exemple, tu fais un paiement de 15 euros, la banque, elle te prélève 10% du montant. Donc, rajoute les charges, machin. Un petit commerce, il peut pas trop s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a certains commerces qui refusent la CB en dessous de 5 euros. Parce qu'il y a des frais à payer. Et le Kern, ça fédère beaucoup de petits commerces et d'économie circulaire.
Est-ce que l'avenir, c'est la crypto-monnaie et la monnaie locale ?
Alors, moi, je dirais plutôt la crypto, dans le sens général, à l'international, quand par exemple tu vas aller voyager. Moi, mon rêve, c'est de payer tout en crypto, clairement. Moi, ça m'assurerait bon d'anonymat, parce que j'y tiens beaucoup sur Internet, réellement. Parce que bah, je pense que c'est la question d'aujourd'hui. C'est vraiment un enjeu de cybersécurité en général. Et vraiment. De vie privée, parce que comme beaucoup de gens se sont offusqués quand on sait que Google collecte absolument sur tout, et par exemple qu'on dit faire à lycée, on parle d'un faire à lycée, 2 minutes plus tard on a des pubs. Ça a effrayé beaucoup de gens, je remarque beaucoup dans mon entourage, etc. Et aujourd'hui on est dans un temps que les gens s'en soucient plus qu'avant de la vie privée. Je pense qu'il y aura un essor des crypto-monnaies. Pas que sur le plan de la vie privée, mais aussi sur la praticité à l'international, à la place d'avoir plusieurs monnaies. Et peut-être si l'euro a encore une inflation, si le jour où l'euro a une inflation plus élevée que le dollar, je pense que il serait urgent au gouvernement de se réveiller un peu sur la question de la crypto-monnaie pour réguler un peu l'euro, quoi. Pour pas se faire marcher sur les ricains en train d'acheter. En train d'importer tout ce qu'il y a en Europe pour pas cher, donc voilà. Et la monnaie locale, vraiment, c'est pour fédérer le village ou même la commune en elle-même. Pour les petits commerces, c'est idéal, pour pas dépendre des banques centrales, mais vraiment d'une gouvernance plutôt démocratique entre tout citoyen. Voilà.
D'accord, et bien merci beaucoup.
Bah de rien.
Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous vous proposons de jouer à un petit jeu qui devrait vous apporter des éclairages supplémentaires sur le sujet d'aujourd'hui. Le principe du jeu est simple, répondre vrai ou faux aux questions posées. Il y a 80 monnaies locales différentes en France. Selon vous, est-ce vrai ou faux ?
Difficile.
C'est difficile à dire, mais je crois qu'on peut répondre peut-être oui, parce que avant les monnaies nationaux, on avait des monnaies locaux, donc on peut dire que oui.
Alors Héloïse, est-ce que tu as la réponse ?
C'est vrai.
Mon affirmation, on ne peut pas payer en crypto-monnaie pour acheter des marchandises chez son commerçant de proximité.
Ouais, je dirais que ça dépend. Vrai, vrai.
Donc on ne peut pas payer ?
Ah non, faux alors.
C'est faux ? Donc on peut payer ? Vous êtes tous d'accord ? On peut payer en crypto-monnaie chez son commerçant ?
Moi, je dis peut-être oui. Ça dépend s'il a l'option.
Oui, alors c'est possible, en fait. Donc, en France, donc ça, c'est sur le site economie.gouv.fr, hein, donc c'est du sérieux. En France, la seule monnaie officielle, c'est l'euro. Hein, c'est le cas de tous les pays de la zone euro. Mais les commerçants, les créditeurs sont bien évidemment tenus d'accepter les paiements en euros. Ils sont obligés de le faire. Mais ils peuvent aussi accepter des devises étrangères et ou des monnaies virtuelles. Voilà. Donc, ils sont libres d'accepter ou de refuser les crypto-monnaies.
Alors, mon affirmation, le paiement en bitcoin s'effectue sur Internet et par carte bleue. Vrai ou faux ?
Je dirais faux. C'est pas les deux.
Eh ben, c'est en effet faux. Ça s'effectue alors pas du tout par carte bleue, parce que justement, c'est le principe du bitcoin, de ne pas pouvoir retracer et tout. Et
la monnaie locale est limitée seulement de payer de l'impôt.
Ok, est-ce qu'on peut seulement payer l'impôt avec la monnaie locale ?
Oui.
Faux.
Faux, oui.
On peut payer, par exemple, à la bonne pioche. On peut payer en monnaie locale, en Kern. Ibrahima, tu confirmes ?
Ouais. Oui, c'est ça.
Okay. Une dernière question, vrai ou faux toujours. Le Bitcoin a été créé en 2008, mais l'identité de son inventeur reste un mystère.
Faux. Faux.
Eh bien, si, c'est vrai. En 2008, une personne ou un groupe de personnes sous le nom de Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc de Nakamoto, mais on n'a jamais réussi à savoir qui était réellement cette personne, puisque c'est un pseudonyme. Donc, il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais à ce jour, on ne sait toujours pas son identité.
C'était le Produit Clepté, l'émission radio du Clept. Nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle émission.